les chefs.
L'entente qui vous a été présentée ce matin permet de régler le passé. Il n'y a aucune nouvelle somme d'argent impliquée. On parle ici d'une augmentation de 1,4 % sur 8 ans. Pour résumer donc, aujourd'hui, nous avons quand même pas d'argent neuf. On règle ce qui était le plus important, qui est le passé. On entraîne une stabilité et une prévisibilité pour nos finances publiques. Il est très important maintenant de travailler tous ensemble.
Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Bon, ben vaste programme avec Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Bonjour Antoine. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour Alec.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'était Pierre Arcan, bien entendu, que vous entendiez, le président du Conseil du Trésor. Antoine, on a eu un bon...
Vous en avez parlé beaucoup déjà, là.
Voilà,
Bernard.
Voilà.
Puis moi, ce que je te proposerais, c'est de me concentrer sur l'aspect politique des choses.
Puis, vas-y.
Parce
vas-y.
Qu'on a sans doute des auditeurs qui se disent, coudonc, on en parle donc bien des médecins, des docteurs.
Ouais.
D'une part, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, ça représente beaucoup d'argent, puis on n'a pas toujours eu l'accès qu'on nous avait promis. C'est, je veux dire, c'est pour ça qu'on en parle. Et ça devient donc une patate chaude, pour employer un anglicisme, mais un bel anglicisme, politique, patate chaude politique. D'abord, ce dévoilement ce matin,
oui,
il s'est fait en catastrophe, mon frère.
Mais ça devait être la semaine prochaine.
Ça devait être, exactement. On avait parlé du 22.
Oui.
Quand on a posé des questions en mêlée de presse à Pierre Arcan cette semaine, il disait « Oui, on se dépêche, on se dépêche. » D'autres aussi, on est très, très impatients. Pourquoi impatients? Ben parce que ça devient un sujet tellement délicat. Hein? On nous promet des économies de 3 milliards.
Ben oui.
On veut bien croire, là, mais en
tout cas... On leur donne 2 milliards là, sur, jusqu'en 2025-2026, là.
Oui.
Puis ils nous disent qu'en échange de ce 2 milliards-là, on va avoir des économies de 3 milliards. Moi, je vais
c'est
dire...
C'est drôle. Puis je trouve aussi qu'il y a une drôle de logique. Une partie des dites économies, là,
ouais,
c'est l'élimination de la clause remorque.
Ben oui.
Ça, pour les
la
gens...
La clause remorque, là...
Vous en avez parlé tout à l'heure, peut-être, mais tu sais, pour le dire aux gens, là, c'est... C'est que en 2014, Gaétan Barrette avait inclus ça dans l'entente, c'est-à-dire que s'il y avait une hausse du salaire des employés de l'État, ben cette hausse-là était appliquée à la rémunération des médecins. C'est même pas des salariés, mais ah, il y avait le droit à ça, eux autres.
T'es cœur, hein?
Ça a pas de bon sens.
Tu dis, voyons, quelle hausse! Puis comment non, mais... ça se fait que... C'est parce que ça, c'est Barrette, là, c'est Barrette qui l'a demandé, mais il y a quelqu'un qui l'a donné.
Mais je sais. Non, mais c'est en 2014. Attention, c'est lui qui l'a donné.
C'est lui qui l'a donné.
Oui, non,
ah,
non,
ben
c'est 2014, c'est lui.
Ah, ben c'est fantastique. Mais ça va-tu assez bien?
Mais moi, j'ai l'impression que ça a été une espèce de dans le marchandage, là, on a dit, c'est vrai qu'on vous force à étaler, ça vous fait chier, ça vous... pardon, excuse-moi, je parle mal, ça vous fait suer.
Retire tes paroles, c'est
non parlementaire.
Monsieur le Président. Non parlementaire.
et on vous donne quelque chose, une petite clause remorque, puis mais ça coûte cher, ça coûtait cher, ça.
C'est quoi,
1,4 milliard, j'ai vu les deux chiffres. Moi, je trouve que c'est une drôle de logique aussi, parce que par ailleurs, on nous dit que désormais, le salaire des médecins, il va avoir une clause remorque avec l'Ontario. Si ça, en plus, c'est une remorque qui monte, mais qui descend jamais.
Ben, c'est ça.
C'est-à-dire que si les médecins ontariens sont mieux payés, là, on va être obligé de rouvrir l'entente pour monter les salaires. Mais s'ils descendent, non, là, c'est une entente. C'est ça que Pierre Arcan nous a dit.
En
tout cas, je reviens pas.
Ben, c'est ça.
Je reviens pas. Je me demande même, est-ce qu'on est souverain, coudonc, là? En matière de santé, on devrait être souverain. Comment ça qu'on est obligé de se lier de même? Cette semaine à l'Assemblée nationale, tout le monde reprochait à François Legault ce bras dans le tordeur de la logique de la remorque là,
ouais,
avec les autres provinces. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, est-ce qu'il n'aurait pas fallu briser cette logique-là?
Mais là, on va-tu arrêter d'en parler des médeins, là? Parce que dans le fond, là
hein,
c'est pas un reproche
pas
que
là,
je te
là,
fais. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des... Tu sais, dans l'actualité, c'est vrai, là, que je pense que le monde doit être tanné d'en entendre parler. Là, c'est les généralistes, c'est réglé. Là, les spécialistes, c'est réglé. On va-tu avoir la paix avec les médecins pour un bout, là?
Moi, je pense que non.
Pourquoi?
Parce que les oppositions vont battre ce fer. Parce qu'il est chaud.
Ils vont battre le beau-frère.
Bon. Absence de Gaétan Barrette. Et c'est justement, aujourd'hui, il est absent pour cette annonce-là. Il a été exclu des négociations. Mais quand on disait ça au premier ministre en mêlée de presse la semaine passée, il nous disait non, il n'a pas été exclu. Il est toujours conseiller. Mais il a quand même décidé d'aller parler d'autres choses à Montréal aujourd'hui. Là. Mais
c'est tellement
ça,
fascinant.
Ça donne une sorte d'image de division à l'interne. On semble aussi vouloir cacher M. Barrette qui incarne la médicalocratie.
Oh boy! Hey, le mot du jour!
Ah, oui, c'est vrai.
Médicalocratie.
Oui, je l'emploie depuis 2014.
Bravo, c'est un nouveau mot.
Parce
de la
qu'à un moment
française.
Donné, il y avait les trois mousquetaires. Tu sais que les trois mousquetaires, il y était quatre.
Ben oui.
Il y avait Bolduc au début, Barrette, Couillard. Et puis il y avait Iglesias, qui était le quatrième.
Oui, 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 oui.
Oui,
oui. Oui, oui.
Alors, Gaétan Barrette, il incarne ça. Il incarne aussi la cupidité des médecins, parce que même s'il essayait de mettre des bâtons dans les lois pour insister auprès des médecins pour qu'ils livrent les services, avant ça, lui, c'était lui le demandeur. Tout le monde se souvient de lui comme président de l'association.
Mais oui, le système actuel, là, ouais. C'est beaucoup le système de Barrette. Là.
C'est Barrette, Couillard, puis peut-être un peu Legault. Ils sont tous là. C'est ça qui est fascinant.
Bon, vite.
C'est une œuvre collective.
Vite.
Ben, on parle-tu de la pétition contre Gaétan Barrette?
Ben oui, il paraît qu'elle roule tempête. Elle roule tempête.
Ah ben oui. C'est pour ça que je te dis qu'on arrête. Même si les choses sont peut-être réglées, que les ententes sont dévoilées, on n'a pas fini d'en parler. Surtout que Québec solidaire s'en sert de deux façons.
Ah oui?
C'est-à-dire, ben oui. Ah oui. Parce que quand tu émets une pétition comme ça, oui. C'est une pétition sur leur site, hein, parce que c'est inacceptable sur le site de l'Assemblée nationale.
Là, c'est dehorsbarrette.com, hein?
C'est ça, exactement, dehorsbarrette.com. Ben, tu recueilles aussi quand tu fais une telle pétition, tu recueilles des informations sur les gens qui viennent signer.
Bien sûr.
Et donc, comme ça se fait de plus en plus, c'est une forme de nouveau pointage, de pointage 2.0.
Ben oui, puis après
et
ça, tu
ça
peux
permet
leur...
d'identifier les électeurs sensibles à ta cause.
Et les solliciter.
Hier, Amir Kadir a fait comme s'il ne savait pas. Puis tout d'un coup, il a dit, ben oui, pour dire la vérité, je viens d'apprendre à travers la question qui a été posée par votre collègue que ça se faisait, mais je suis content, je trouve que c'est une superbe idée. Alors voilà, ouais, c'est comme ça qu'on nous surveille et dit, ben... Oui, on fait du marketing politique, de la partisanerie. C'est normal, on se bat. Je pense qu'il a raison là, quand on est dans cet univers-là. On n'a pas le choix que d'identifier les gens qui sont sensibles à notre message puis essayer de faire sortir le vote au moment opportun.
Mais ça, là, les gens qui vont signer la pétition, ça veut dire donc que Québec solidaire, dorénavant, va pouvoir envoyer à ces gens-là, mettons, des petits courriels pour les solliciter, mettons, un petit don.
Oui, eh bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On se montre des banques.
Bien oui.
Ces banques-là, il paraît, coûtent très cher. Ben, ça va être très important dans les élections de 2018, beaucoup plus qu'en 2014. Nous, on a vu que la coalition Avenir Québec, là, déjà au moment de l'élection dans Louis Hébert, a beaucoup utilisé les solutions informatiques.
Très intéressant. On va aller rejoindre Alec. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Alors, écoute, le pot attendra. La légalisation du pot attendra.
Oui, il faudrait être patient avant de rouler son petit joint légalement. Mm-hmm. Alors, probablement à la mi-août, mais je te dirais, ça pourrait même retarder jusqu'à la mi-septembre. On en a parlé il y a déjà quoi une dizaine de jours quand j'étais à Ottawa un mardi là, de la semaine précédente. Alors, j'avais déjà commencé à avoir des échos comme quoi ce serait retardé parce que l'échéance du 1er juillet, étant donné l'étude du projet de loi au Sénat qui allait prendre plus de temps, est impossible à respecter. On a tenté là, du côté du gouvernement... De forcer un peu la main des sénateurs en leur disant, écoutez, passez au moins en comité là, au début du mois de mars pour être capable de l'adopter quelque part en mai. Puis les sénateurs n'ont pas beaucoup aimé se faire presser par le gouvernement qui ne contrôle pas les travaux au Sénat. Hein, depuis que Justin Trudeau nomme des sénateurs indépendants, ils ne contrôlent plus les travaux. Et ils se sont fait dire donc par les sénateurs, il n'y en a pas question, on va prendre notre temps, on va l'étudier tout le printemps puis on va voter quelque part au début du mois de juin, au plus tard le 7 juin. Donc, comme on sait maintenant que ça prend 8 à 12 semaines entre l'adoption du projet de loi et sa mise en vigueur parce que les provinces veulent avoir un peu de temps pour tout mettre en place, ben faites le calcul, début juin, 8 à 12 semaines, ça nous amène mi-août, peut-être à la mi-septembre. Alors, ça va être retardé. C'est un peu un compromis dans le fond parce que certains sénateurs conservateurs auraient même voulu l'étudier plus tard, jusqu'à l'automne, ce projet de loi-là, vraiment en profondeur. Donc là, ils s'engagent à voter au moins au mois de juin, puis le gouvernement a dit « bon, ben j'aime mieux retarder la légalisation de quelques semaines que d'être pris pour attendre encore une partie de l'automne ». Donc on a accepté là, cette espèce de compromis-là au Sénat qui fait en sorte que ça va être un peu plus tard. Je te fais entendre un extrait de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. Et non, contrairement à ce que vous pensez, je ne mets pas toujours les extraits de Ginette Petitpas-Taylor parce que j'aime son nom de famille, même si je l'adore. Parce que Petitpas, j'adore qu'une ministre s'appelle Petitpas. Je ne sais pas, ça fait partie de mes...
C'est quelqu'un qui applique des solutions graduellement.
Exactement.
Petit pas par petit pas.
Oui, Ginette, il va tranquillement. Alors, on peut l'entendre s'exprimer sur le pot hier.
Oui, OK. Finalement, comme que j'ai dit, si on fait le calcul comme tel, nous savons que le Sénat nous a dit aujourd'hui la date du travail, la date finale du vote comme tel. Et puis après ça, on doit finalement ajouter le 8 à 12 semaines que les provinces ont besoin. Monsieur, j'ai aucune date précise à vous donner aujourd'hui, mais comme que j'ai dit, ce n'est pas une question de date ce projet de loi ici, c'est une question de processus. Puis on veut aussi s'assurer que l'implantation de ce processus vous êtes fait de bonne façon.
Ouais. On aime ça, les processus.
Je trouve que ça fait cassette de dire c'est pas processus. Une question de date, c'est une question de processus.
Ouais, les gouvernements aiment beaucoup les processus et les comités, puis les groupes de travail, puis les comités d'experts, hein, tu le sais. Donc, les processus, ça fait partie de ce que
T'as
les gouvernements
les
aiment.
Les sommets.
Les sommets aussi, oui. Les groupes de travail aussi. Bon. Alors, écoute, il va y avoir des amendements au Sénat, hein, c'est à peu près inévitable. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va être renvoyé à la Chambre des communes pour une dernière étude quelque part au mois de juin, ce projet de loi-là, parce que les deux chambres doivent s'entendre sur le même texte. Et là, j'ai hâte de voir quels sont les amendements qui vont être proposés, parce que je vous parlais hier de la volonté du sénateur Serge Joyal de forcer la divulgation des noms de tous les actionnaires, pas seulement de leur firme d'investissement, mais de leur nom, pour savoir qui investit de l'argent dans les entreprises de cannabis, ce qui me semble plutôt une bonne idée. Mm-hmm. Mais il va en avoir d'autres, des amendements qui vont être proposés. Je t'entendais ce matin en donner quelques-uns qui vont probablement être proposés, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sénateurs qui vont le faire, particulièrement des sénateurs conservateurs, d'après ce que je comprends. Et là, moi, je t'avoue que certaines de ces amendements-là qui pourraient être déposés, on va attendre de voir, là, ça va se faire au courant du mois de mars, puis d'avril, puis de mai, mais qui me chicotent un peu. Et je me demande si les sénateurs ne sont pas en train de sortir un peu de leur champ de compétences avec certains amendements.
J'aime parce ça que... t'entendre. Dans ce...
Non, mais regarde, parce que regarde, je vais te donner quelques exemples.
Je suis un critique, moi, féroce de l'illégitimité des sénateurs.
Ben, c'est pas tant... Ben, c'est parce que je comprends que c'est un projet de loi qui est délicat puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attentifs à ce qui va se produire. Puis les sénateurs veulent faire de leur mieux. Mais à un moment donné, c'est le cadre général de la légalisation doit être dicté par Ottawa. C'est normal, c'est le code criminel. Mais l'application doit être dans les provinces. Et moi, je trouve ça tout à fait sain parce que ça permet aux provinces d'y aller en fonction des valeurs de leurs citoyens, de faire une variation d'un endroit à l'autre sur quel type de distribution on va faire, par exemple. Bref, que ça ne soit pas centralisé à Ottawa, que les provinces puissent décider d'avoir un système qui leur ressemble plus. Je trouve que dans la fédération, là, la décentralisation, c'est une bonne chose. Or, il y a des sénateurs qui vont proposer des amendements qui font l'inverse. Par exemple, il y a des sénateurs qui veulent dicter l'âge légal. Ils trouvent que 18 ou 19 ans, c'est trop tôt parce que la science dit que jusqu'à 21 ans, ton cerveau continue à se former, peut-être même jusqu'à 25 ans. Donc, ils disent c'est pas normal que les provinces mettent l'âge à 18 ou 19 ans comme c'est le cas actuellement. Ben, je m'excuse, mais c'est pas de vos affaires. Hein? C'est comme l'alcool.
Ça, c'est de la
non, mais c'est comme l'alcool. On a de l'âge légal qui est différent d'une province à l'autre. Puis si Québec trouve que 18 ans, c'est trop tôt, bien, ils ont tout le loisir de le mettre à 21 ou à 25 ans. C'est pas ce qu'ils ont choisi, mais ils peuvent le faire. Même chose quand je prends l'amendement. Il y en a qui veulent limiter le taux de THC parce que tu sais que c'est pas inclus dans le projet de loi. Hein? Ça, c'est la substance là, active de la marijuana qui crée le petit buzz, comme on dit. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai que sur le marché noir, on a rendu avec des concentrations très, très élevées actuellement. Et donc, il y a des sénateurs qui sont inquiets de ça, à savoir est-ce que maintenant on va vendre légalement des concentrations très élevées de THC. Donc, on devrait le limiter, le plafonner. Or, encore une fois, ce n'est pas de vos affaires. Les sociétés d'État, les provinces qui veulent limiter le taux de THC vendu dans leur succursale peuvent le faire. Ils ont la capacité de le faire. Ils vont faire les études pour savoir effectivement, pour ne pas vendre des taux de THC qui soient démesurés. Et si éventuellement le marché évolue, la volonté des gens, des consommateurs change, ben tu peux t'adapter beaucoup plus facilement dans une province que de retourner changer un projet de loi à Ottawa qui a déjà fixé un plafond au THC. Bref, je trouve que ça va...
Une fédération, c'est l'unité dans la diversité.
Ben là, on va avoir un système. Si on suit les sénateurs, c'est pas sûr que ça va être accepté par le gouvernement, puis c'est pas certain qu'ils vont tous déposer ces amendements-là. Mais c'est ce qu'on entend dans
On va avoir du ping-pong. On s'entend là que
ben, quand c'est parce que même les provinces, à un moment donné, vont peut-être taper sur les épaules des sénateurs en disant je comprends ce que vous essayez de faire, mais laissez-nous la latitude pour être capable d'évoluer avec ce marché-là. Mettez pas tout dans le béton. Tu sais, par exemple, le maximum qu'on peut conserver à domicile, le Québec a fixé ça à 150 grammes. Il y a plein de provinces qui disent il n'y a pas de limite, vous pouvez conserver le nombre de grammes que vous voulez à la maison. Il y a des sénateurs qui n'aiment pas ça, qui voudraient qu'il y ait une limite comme au Québec. Mais encore une fois, ce n'est pas de vos affaires. Les provinces, là, si l'Ontario veut limiter ça à domicile à 250 grammes, elle peut le faire. Puis c'est aux citoyens de se plaindre à l'Ontario s'ils n'aiment pas ça. Et là, je trouve que donc, il y a des sénateurs qui commencent à s'en permettre beaucoup. Puis je voulais juste dire que ça me chicote. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler.
Alec, tu as précisé dans les dernières minutes ta vision du fédéralisme.
Écoute, hein, c'est spectaculaire. Non, mais ça, c'est un bel exemple.
Mais c'est très bien. C'était très clair.
C'est fabuleux.
Et Antoine est heureux. Et alors, on va s'arrêter. Et on va s'arrêter. Et puis, je dois dire que tant qu'à être dans le fédéralisme, aussi bien qu'il soit décentralisé. Donc, Alec, moi aussi, je suis heureux. Alors, on s'arrête.
On s'arrête. Est tous fédéralistes?
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
OK, correct.
J'ai dit tant qu'à être dans le fédéralisme. Alors, on va s'arrêter parce qu'au retour, justement, parlant de fédéralisme, notre ami Alec a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du vendredi à nous communiquer.
C'est vrai, il y a toujours une bonne nouvelle le vendredi.
Souvent, c'est une très bonne habitude qu'il doit conserver. Mais pour ça, il faut l'encourager. Et donc, ça sera après la pause. Alors, de retour avec Antoine et Alec. Alec, parle-nous donc de cette bonne nouvelle du vendredi.
Eh oui, moi, j'aime ça avoir quelques bonnes nouvelles pour finir la semaine.
Bien sûr.
Alors, écoute, le
ça
Québec...
Ça va nous prendre une ritournelle, là.
On va se trouver un petit comment? Une jingle?
Non, une ritournelle.
OK. Une ritournelle, mon oncle. Alors, on va se trouver ça. Mais en attendant, je vous dis que la bonne nouvelle du vendredi, c'est que le Québec obtient l'une des super grappes d'innovation du gouvernement fédéral. Ça a été annoncé hier. Donc, le fédéral qui avait réservé dans son dernier budget 950 millions de dollars pour encourager l'innovation, puis il avait demandé aux entreprises, aux universités, aux centres de recherche de se regrouper en secteurs un peu partout et de faire des propositions. Il y a eu 50 propositions initialement. 9 étaient finalistes, dont 2 qui venaient du Québec. On avait proposé une super grappe industrielle sur la mobilité durable qui n'a pas été retenue. Mais dans les 5 qui ont été retenues, il y a la super grappe sur les chaînes d'approvisionnement intelligentes. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle puis les technologies les plus récentes pour que les chaînes d'approvisionnement mondiales soient plus efficaces. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'entreprises au Canada qui ont des usines ou des centres d'affaires un peu partout dans le monde qui travaillent sur un même projet. Donc, comment rendre cette chaîne d'approvisionnement-là plus efficace quand il y a des pièces qui viennent du Mexique, de la Chine, de l'Europe, qui sont assemblées au Canada? Bref, c'est toujours des casse-têtes logistiques. Et si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour rendre ça plus efficace, tant mieux. Donc, c'est le groupe Optel qui est dans le parc technologique à Québec, qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui compte presque 1000 employés. C'est un secret bien gardé au Québec, Optel.
Comment on appelle ça? C'est pas de la fibre optique, c'est de la... Continue, en tout cas, ça va me revenir.
Ils ont réussi à convaincre 80 partenaires de se joindre à eux pour faire la soumission au gouvernement fédéral des entreprises qui sont petites ou grandes, des universités, des centres de recherche. Et là, il y a des gros, gros joueurs du Québec Inc. qui sont là-dedans. CGI, Bell Canada, Agropure, Aldo, l'ECN, Cascade, Alimentation, Couche-Tard. Ça donne une idée. Là, HEC est là, Polytechnique, l'Université McGill, l'Université de Waterloo. Bref, des gros joueurs qui sont là-dedans. Et les montants n'ont pas été dévoilés hier, mais j'ai commencé à gratter un petit peu. Et donc, cette grappe-là, sur les 950 millions, devrait recevoir au bas mot 200 millions du gouvernement fédéral. La fourchette, on dit, là, les 5 grappes vont recevoir entre 150 et 250 millions de dollars chacune, mais celle du Québec, là, est dans le haut de la fourchette. Probablement autour de 220, peut-être même 230 millions. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de l'argent que ces entreprises-là et ces centres de recherche-là promettent d'investir.
Voilà,
on est à 700 millions qu'on promet d'investir dans ces entreprises-là, dans cette super grappe-là. Mets les deux chiffres ensemble, tu as presque 1 milliard de dollars sur 5 ans qui vont être investis dans ce domaine-là. C'est énorme, là. C'est quelque chose de gigantesque. Ça va créer des emplois, ça va être bon pour le Québec. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Les autres grappes, là, rapidement, qui ont été choisies par le gouvernement fédéral, tu as une grappe sur l'économie océanique. Rien, pas besoin de te dire que ça se passe en Atlantique. La super grappe sur la fabrication de pointe dans le secteur manufacturier, ça se passe en Ontario. Une grappe d'innovation sur les protéines, c'est en Saskatchewan, et les technologies numériques, c'est en Colombie-Britannique. Regarde comme le hasard fait bien les choses. Il y a une super grappe par région.
Ben oui.
C'est un hasard. C'est comme ça. Hein? Les 5 meilleurs projets, il y en avait un par région. C'est magnifique, la politique. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et je termine en te disant sur ce point-là qu'il y a une personne qui n'est pas très heureuse, c'est Maxime Bernier.
Pourquoi?
Maxime Bernier, lui, a pas beaucoup aimé l'annonce d'hier du gouvernement parce qu'il dit plutôt que de choisir les gagnants et les perdants en mettant autant d'argent dans certaines super grappes industrielles, Ottawa se trouve à donner un coup de pouce à certaines entreprises. Lui, il aurait aimé mieux qu'on baisse les impôts de tout le monde. Je te fais entendre la réaction de Maxime Bernier.
C'est une subvention à l'innovation où des entrepreneurs paient des taxes et des impôts pour donner ça à 5 entreprises à travers le Canada, les grands gagnants de la loto super cluster ou la loto des grappes industrielles. Et la meilleure façon de pouvoir aider l'innovation au Canada, c'est de baisser les taxes et les impôts de tous les entrepreneurs. On aurait pu le faire de 950 millions de dollars aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, c'est une journée très triste pour ces entrepreneurs-là.
Bon, m'a dire là.
C'est une journée très triste.
C'est pour sortir, pour dire.
Mais écoute, les...
Ouais, alors,
les
le mot que je cherchais, Alex, c'était l'optique. Oui. C'est une des grandes spécialités du parc technologique.
Le Centre national
Québec.
D'optique,
oui. L'optique, je pensais qu'Optel, optique, mais non, Optel, ils sont dans le domaine de la traçabilité des médicaments.
Oui, voilà. Entre autres, et c'est la logistique qui est beaucoup leur qui est maintenant leur grande spécialité, exactement. Oui,
ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, Maxime Bernier, ben écoute, on ne peut pas lui reprocher son manque de cohérence, mais là, je pense qu'on peut lui reprocher son manque de timing.
Ouais, ben disons que quand j'ai commencé hier en fin de journée à faire des appels pour comprendre là, qu'est-ce qu'était l'envergure de cette annonce-là, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le milieu des affaires québécois qui étaient très déçus. Hein? Ils ne trouvaient pas que c'était une journée triste, je peux te dire ça
ça. Ben non. Parlant d'être joyeux, Philippe Pouillard était très joyeux hier, Antoine.
Oui, parce qu'il est comme en campagne électorale actuellement, Philippe Couillard, c'est censé être la pré-campagne, mais c'est des horaires de campagne. D'abord, il a raté la période de questions hier pour faire des visites d'usines en Beauce. Cela nous ramène un peu à Maxime Bernier. Oui. Là, peut-être que Maxime Bernier n'a pas trouvé que c'était une journée triste. Il a été critique, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a été critiqué par la coalition Avenir Québec. Il y a Simon Jolin-Barrette, le député, qui dit la place du premier ministre est à l'Assemblée nationale à répondre aux questions. Et c'est vrai que c'était un peu incongru hier.
Je suis d'accord avec lui.
De le voir donc faire des visites d'usine. Mm-hmm. Puis, tu sais, à la limite, l'annonce sur le REM la semaine précédente, parce qu'il a manqué aussi, il a raté aussi la période de questions la semaine précédente.
Oui, là, tu dis c'est la
là,
caisse
dis,
qui
dit. Oui, c'est gigantesque comme annonce. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être qu'à la limite, on aurait pu. Mais là, c'est vraiment des visites d'usine. Des usines intéressantes, tu as remarqué.
Non, on ne dit pas qu'il ne doit pas aller dans ces usines-là, mais
il faut savoir
vendredi,
que
mais
ce matin vendredi. Aussi, il est dans les usines. Et cet après-midi aussi, d'ailleurs, là, actuellement, au moment où on se parle, il est en train de faire un point de presse à l'entreprise Gestal 3G. Et ce matin, il a visité dans Bellechasse, toujours. C'est vraiment des régions qui sont à risque pour le gouvernement Couillard, oui. Pour le Parti libéral, là, sur le plan électoral. C'est certain que la coalition Avenir Québec, dans la grande région de Québec, est très puissante. On
avec
parle
les chiffres
d'un
actuels,
balayage sur la rive sud. Dans la revue de notre cher Alec aussi, il y avait des prédictions catastrophiques du point de vue libéral là, à Québec même.
Et Alec, Antoine, je t'arrête.
Oui,
je t'arrête parce qu'il me reste juste 1:30
ah, ben,
pour que Alec puisse nous parler du congrès du NPD. C'est quand même leur grand congrès là,
qui
se déroule à Ottawa. En 1:30, là, ramasse-nous ça, mon ami.
Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est le premier grand congrès de Jack Metzing, hein, le chef du NPD qui a été élu cet automne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de résolutions proposées par les militants à saveur nationaliste québécoise. C'est étonnant. Sur les 398 propositions, ils ne seront pas toutes votées puis adoptées, là, on s'entend, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui retiennent l'attention parce qu'ils sont très, très pro-Québec. Par exemple, il y a des résolutions de militants qui proposent que le NPD reconnaisse comme une erreur historique le rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec en 1982. Il y a une résolution qui demande que le Parti néo-démocrate transfère au Québec l'ensemble des budgets fédéraux destinés aux artistes s'ils prennent le pouvoir. Il y a une déclaration, on propose d'avoir une déclaration de revenus unique gérée par Québec. Évidemment, il faudrait qu'il n'y ait aucune perte de revenus aucune perte d'emploi à Revenu Canada, là, ce que je
comme
trouve plutôt drôle.
Comme la TPS TVQ, dans le fond.
Oui, c'est ça.
La TPS est perçue par Revenu Québec, puis est envoyée à Ottawa après.
C'est ça. Donc, il y a beaucoup de résolutions en ce sens-là. On va les surveiller. Est-ce qu'elles vont toutes être adoptées? Je ne le sais pas, mais c'est quand même intéressant. Visiblement, les néo-démocrates du Québec ont décidé de jouer du coude un peu, puis de faire un... pas un virage Québec, parce que c'est déjà un parti qui, dans les dernières années, s'est rapproché du Québec, mais clairement, on a l'impression qu'il manque quelque chose là, actuellement au NPD au Québec. Là, les intentions de vote sont à la baisse, et donc je pense qu'on essaie de secouer un peu les troupes, puis les résolutions en font partie. Puis il va y avoir évidemment, comme c'est toujours le cas au NPD depuis maintenant quelques années, un débat déchirant sur les pipelines. Il y a des résolutions qui demandent à ce que le NPD s'oppose à toute construction ou au agrandissement de pipelines au pays, peu importe les endroits et les régions. Puis déjà, Jack Metzing, le chef, a dit on peut pas être aussi catégorique. Il faut juger au cas par cas les projets, l'évaluation environnementale, leur impact, etc. Donc, la tête du parti trouve que la résolution va trop loin, alors que les jeunes néo-démocrates, eux, veulent en faire quelque chose qui est central au parti. Bref, mais c'était comme ça aussi lorsque Thomas Mulcair s'est fait montrer la porte il y a deux ans à Edmonton. Au précédent congrès, ça avait déjà été déchirant. Ça va encore l'être en fin de semaine.
Et en toile de fond, évidemment, c'est l'affrontement entre les deux gouvernements NPD.
Oui.
Celui de la Colombie-Britannique qui est contre le pipeline et celui de l'Alberta qui est pour le pipeline. Alors, ces contradictions-là, dans le fond,
c'est les mêmes militants.
Est-ce qu'il y a des membres du NPD Québec qui vont être là?
Oui, c'est ça. NPD Québec? Tu sais que c'est les mêmes, dès que tu es membre d'une filiale provinciale, tu es membre du Grand Frère fédéral au NPD.
OK, c'est pas comme le Parti libéral du Québec qui s'est affranchi dans les années 50.
Ouais. Tu es membre des deux. Dès que tu es membre de l'un, tu es membre de l'autre. Je dois m'arrêter là-dessus, mes amis, parce qu'on veut garder du temps pour l'international. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et du Québec. Bonne fin de semaine. Et Alec Castonguet, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Merci, Alec. Merci à vous deux.
Salut.
Salut.